On est le dimanche de Pâques, il me semblait normal de parler de la résurrection de Jésus. D'accord ? Gloire à Dieu. Voilà. Bien que pour nous, bien, c'est tous les jours. Jésus est ressuscité, nous le savons, nous en parlons régulièrement dans le cadre de nos prédications. Nous nous attachons à un Dieu vivant. Amen. Un Dieu mort, un Dieu vivant. Et la résurrection de Christ a et aura inévitablement donc des impacts dans le cœur de ceux qui croient. C'est le titre de mon message, la résurrection de Christ et son impact ou son retentissement dans la vie de ceux qui vont croire. Alors, j'aimerais lire avec vous des versets qui me semblent bien rattachés à cette vérité. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. On va lire quelques versets d'introduction et qui vont nous aider à prendre conscience de l'importance de la résurrection de Jésus comme nous l'avons souligné dans un petit flyer d'invitation puisque dans le cadre du congrès, il y avait une soirée publique dans le centre des congrès d'Atanor à Montluçon. Une soirée publique d'évangélisation, où l'évangile a été annoncé, prier pour les malades. Et le thème de cette soirée, du jeudi soir, c'était celui-ci, Pâques, c'est plus que du chocolat. D'accord ? Quand vous écoutez les informations depuis quelques jours, on nous parle souvent du chocolat. Rien qu'à écouter, rien qu'à voir, j'ai déjà une crise de foi. On nous en parle tellement, hein. Mais pas que c'est plus que du chocolat, hein. Le mot Pâques, on va y revenir, il est biblique, hein, et ça nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, voici ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, dit l'apôtre Paul, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, l'évangile, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, bien vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, Jésus, est mort pour nos péchés, selon les Écritures, donc mort crucifié sur la croix, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité, le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, dit Paul, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme qu'est venu, donc Jésus, la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Sortent quelques versets. Dans le même chapitre. Gloire à Dieu. Voilà. Verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, dit-il à cette église de Corinthe, je le dis à votre honte. Voilà des textes tellement importants. Tellement importants. Soulignant la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, Paul en est convaincu. Il a été un témoin dans le sens où Jésus lui est apparu. Alors, pour des personnes qui ne connaîtraient pas la Bible encore, l'Écriture, les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, il suffit que vous vous rendiez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 de votre Bible. Et vous allez découvrir de quelle manière Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul, de quelle manière Jésus est apparu à l'apôtre Paul pour arrêter Paul dans, ou du moins à ce moment-là, il se prénommait Saul de Tarse, de quelle manière, eh bien, Jésus l'a arrêté alors qu'il était dans une démarche, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, de folie, de haine, de combat contre l'Église du premier siècle. Il combattait Dieu, il combattait Christ, il combattait la doctrine de Dieu sans s'en rendre compte. Et cet homme va donc dans cette lettre aux Corinthiens, nous l'avons lu, nous avons lu quelques versets du moins qui nous intéressent ce matin pour appuyer le fait qu'effectivement Jésus est ressuscité. Vous l'avez lu avec moi, je l'ai lu de tout mon cœur, ce texte, j'y ai mis les formes, j'y ai mis la conviction, parce que l'apôtre Paul, quand il l'écrivait, était convaincu de ce qu'il écrivait. Il n'a pas écrit cela pour meubler, pour dire après tout, je vais me convaincre moi-même, essayer à convaincre mes auditeurs. Non, non, il est convaincu. Et je prie Dieu pour que le plus grand nombre, comme dit Paul dans sa lettre, de la part de Dieu, que le plus grand nombre puisse être aussi dans cette conviction. Ce qui est quand même étonnant, c'est que l'apôtre Paul est obligé de dire à cette église du premier siècle qui se situe dans la ville de Corinthe, en Asie mineure, il est obligé de souligner le fait que Jésus est ressuscité. Normalement, il ne devrait même pas le faire. Mais il le fait quand même. Il le fait pour rappeler ce point de vérité qui devient un point de doctrine important par rapport au salut, mais également il le fait parce que, précisément, dans l'église de Corinthe, au milieu de ces gens, de ces personnes, de ces croyants, il y en avait quelques-uns qui remettaient en doute la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul est en train de leur dire, comme il le dit à chacun d'entre nous, à tous les croyants, à tous les chrétiens, sur toute la surface de la terre, que la résurrection de Jésus-Christ ne doit pas être rejetée, mise de côté, comme si c'était un point seulement à voir une fois par an. la période de Pâques, selon notre calendrier, mais que c'était une vérité à coller à notre cœur, à coller à notre âme, à notre vie, pour que nous puissions être assurés de toutes les nombreuses bénédictions qui en découlent. La première chose que je soulignerai à ce sujet, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul, ressuscité le troisième jour selon les Écritures, quand il est écrit selon les Écritures, ça veut dire tout simplement selon les prophéties bibliques. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Et la résurrection, dans le cadre de ces nombreuses bénédictions qui en découlent, il y a quelque chose de tellement important, je viens de le dire plus ou moins, c'est qu'elle va donner du fondement à notre foi chrétienne. Si vous enlevez la résurrection de Jésus, et Paul a raison de le souligner, la foi est vaine. Ce n'est pas le fait de dire « je crois en Dieu » qui fait que ma foi a un fondement. Ce n'est pas le fait de dire « je suis chrétien » d'étiquette ou je ne sais de quoi. Ce n'est pas cela qu'apporte un fondement. Le fondement d'une vie chrétienne, c'est un attachement profond à la réalité de Jésus qui a remporté la victoire sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il est les prémices d'une résurrection réelle. Depuis 26 ans que je suis pasteur, j'ai pu accompagner de nombreux croyants dans leur dernier moment. J'ai bien dit dans leur dernier moment. Certains, je n'ai pas pu être là, ils sont décédés avant. Alors j'ai encouragé la famille et ensuite j'ai annoncé l'évangile lors des obsèques. Mais certains, j'ai pu les accompagner jusqu'à leur dernier souffle. Alors certains diront, c'est macabre. Pas du tout. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un chrétien qui meurt avec la foi en Christ. Et je suis bien placé pour le dire, pour l'avoir vu. Je me souviendrai toujours, je vous donne ce témoignage, je me souviendrai toujours de cette chrétienne. Quand j'y pense, je suis encore ému. C'était dans l'église de Romans-sur-Isère. Elle était là, au milieu de cette assemblée. Un jour, elle est tombée malade. Et cette maladie l'a entraînée vers la mort. Et avec mon épouse, on allait régulièrement la voir. Elle était sortie de l'hôpital pour finir ses jours à la maison, chez sa fille. Et régulièrement, très souvent, elle était dans nos visites en priorité. On allait la voir et on lisait la parole de Dieu avec elle. On prie avec elle, on chantait des cantiques avec elle. Et ça a duré plusieurs semaines. Il est arrivé un moment donné où la fille m'a appelé en urgence, elle m'a dit « Pasteur, venez vite, maman est en train de partir. » Nous y sommes allés avec mon épouse et elle était encore un petit peu consciente. Et là, on savait que c'était les derniers moments qu'on pouvait échanger avec elle sur cette terre. Alors, nous avons encore lu la Bible. Elle aimait la parole de Dieu. Nous avons prié avec elle. Elle aimait la prière. Nous avons chanté des petits chœurs. Elle aimait chanter. Et avant de partir, je l'ai embrassée. Et je lui ai dit, si Dieu veut, je repasserai dans 2-3 jours et on va prier encore le Seigneur ensemble. La fille m'avait dit, c'est les derniers moments, le médecin l'a dit. Mais moi j'ai dit, en 2 ou 3 jours, on peut repasser si vous voulez. Elle me dit oui. Seulement, quelques heures plus tard, elle tombait dans le coma. Le médecin est revenu en urgence le lendemain. Et il a dit à la fille. Il lui a dit ceci. Il lui a dit, madame, je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement, elle devrait être morte. Là, maintenant. Mais j'ai l'impression que, en définitive, elle attend, il n'était pas au courant, le médecin, hein, je précise. Elle attend quelque chose parce que quelqu'un lui a fait certainement une promesse. C'est le médecin qui lui dit ça. Elle m'appelle, elle me dit, pasteur, il faut que vous reveniez parce que maman vous attend. Et moi, je reviens avec mon épouse. Elle était dans le coma. Donc, les yeux fermés, elle ne parlait pas. Et là, je lui ai lu la parole de Dieu. Et je lui ai dit, sœur, je vous avais promis que je reviendrai dans 2-3 jours. Vous avez attendu ? On est là. On va prier. Et maintenant, laissez le Seigneur vous prendre avec lui. J'ai prié. Nous avons chanté un chœur. Et quelques minutes plus tard, la mort était confirmée par le médecin. Elle est partie. Et juste avant de partir, ça a duré une demi-heure. La chambre où nous étions, c'est un témoignage que je ne rends pas souvent parce que c'est trop personnel. Mais la fille de cette sœur, si elle écoutait ce message, elle peut l'entendre sur le site, pourquoi pas ? Elle habite Romans-sur-Isère. Elle pourrait vous le confirmer ce matin pendant une demi-heure. Nous avons senti la présence du Seigneur comme jamais je l'avais senti auparavant. Je sentais la présence de Dieu. Je pourrais dire même la présence des anges qui venaient la chercher. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui marquent une vie, qui marquent des cœurs. Et notre cœur a été marqué par ce moment-là et bien d'autres. Jésus manifeste la réalité de sa présence parce qu'il est ressuscité. Il y a des choses extraordinaires. La foi est fondée là-dessus. Je reviens tout d'abord sur cette expression de nouveau de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 14 et 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire, elle est dépourvue de valeur, votre foi. Elle est dépourvue de sens. Elle est dérisoire. Elle est insignifiante. Elle est inefficace. Elle est inutile. Voilà tous les synonymes. Une foi vaine. 1 Corinthiens 15-14, l'apôtre Paul donc le souligne, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est ainsi vaine. Notre foi tiré de la parole de Dieu, justement, qui nous rappelle que Jésus a vaincu la mort. Notre foi a donc besoin d'un solide fondement. Et ce fondement, par excellence, est la réalité de la résurrection de Christ. Il y a des implications, il y a des impacts directs, non pas indirects, mais directs, de la résurrection de Christ. Puisque Jésus est vivant, cela implique premièrement une activité. Jésus est véritablement actif, alléluia, en notre faveur. L'Écriture nous dit, Paul le dit, il continue à intercéder pour chacun d'entre nous. Jésus, dans le ciel, il est reparti à la droite du Père. Ça, c'est l'ascension. Et il intercède pour nous. Il a envoyé son esprit sur l'Église pour que l'œuvre de Dieu continue à se multiplier en France, en Europe et dans le monde entier. Il y a une activité dans la personne de Dieu. Dieu n'est pas inerte. Souvent, eh bien, des personnes se sont arrêtées sur le fait qu'il est écrit que Dieu est assis sur son trône. Que Jésus s'est assis à la droite de Dieu après être reparti vers le ciel. Alors ils pensent que si Dieu est assis sur son trône et que Jésus est assis à la droite de Dieu, Dieu n'agit plus, il est là, assis, il ne fait plus rien. Jésus a terminé son travail, il est assis, il se repose, il ne fait plus rien. C'est faux. Il y a une activité Jésus est vivant. Il répond aux prières. Je suis convaincu que suite à la foi et la prière de la foi dans le nom de Jésus, Mélodie est guérie. Tu le crois, Mélodie ? Alléluia. Il répond aux prières. Il agit. Il se met en peine pour l'humanité encore aujourd'hui, en ce week-end de Pâques. Puisque Jésus est vivant, cela implique une proximité. Jésus, encore ce matin, par le Saint-Esprit, manifeste sa présence. Il est proche, il est accessible pour celui qui se laisse approcher, pour celui qui donne une accessibilité à Jésus, pour celui qui dit « Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie ». C'est pas « Jésus » égale une religion, une étiquette religieuse, c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, le Dieu véritable, qui est prêt à venir dans mon cœur et apporter un changement radical à ma vie. Alléluia. Puisque Jésus est vivant, cela implique la possibilité d'une relation intime, d'une relation étroite avec Christ. On peut dialoguer avec lui. Allez. On peut communiquer avec lui par la prière. On peut s'adresser à lui. Il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui, dit l'Évangile. On peut établir une réelle relation, une réelle communion. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, ils peuvent dire « Oui, monsieur le pasteur, autrefois je ne comprenais pas, mais là je suis en train de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. » Je réalise qu'il est vivant. Jésus est vivant et cela implique la certitude de sa fiabilité. Jésus est fiable. Alléluia. On ne peut pas dire cela de tout ce que nous propose le monde. On est d'accord ? Jésus est fiable, pardon. Jésus est fiable. Nous pouvons constamment nous appuyer sur lui. Parce qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut tout sur la base de la foi. Il peut tout sur la base de sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Il ne nous fait jamais défaut quand nous l'appelons pour une aide, quand nous l'appelons pour un conseil, quand nous l'appelons quelque part, j'emploie le mot, pour une consultation. Alléluia. Pour recevoir de la lumière, parce qu'il est la lumière du monde, celui qui le suit. Il ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie, dit l'Évangile. Nous pouvons nous appuyer sur lui pour un projet, pour sa gloire, pour le bien de l'Église, pour le bien de la ville où je suis, pour le bien du pays où je suis, afin que Dieu fasse encore éclater sa gloire. Mes amis, mes frères et sœurs, s'appuyer sur Jésus, s'appuyer sur Dieu, alléluia, en Christ, c'est vivre en sécurité. Vous avez remarqué que nous sommes dans des périodes où il y a un problème de sécurité. Il y a de l'insécurité. Les hommes cherchent la sécurité, la paix, là où elle ne se trouve pas. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sûreté, sécurité, alors une grande ruine soudaine s'abattra sur eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas celui qui est vivant. Ils vont chercher parmi les morts celui qui est vivant, mais on ne cherche pas parmi les morts un vivant. Oui ou non ? C'est pas logique. Ce matin, ce lieu n'est pas un cimetière. Ce lieu n'est pas un endroit où il y a la mort. Le lieu dans lequel nous sommes, puisque nous sommes réunis au nom de Jésus, il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Évangile. Ce qui fait que là où nous sommes, parce que Jésus est présent, nous venons en son nom. Alors il y a la vie, il y a la lumière, il y a la réalité de la présence de Jésus parce qu'il est ressuscité. Alors mes frères et sœurs, il y a la sécurité. La Bible dit que Dieu alors va entourer son enfant par derrière, par devant et sa bonne main est sur lui. La Bible nous dit que Jésus va devenir pour nous le bon berger de notre âme, un berger qui conduit nos vies et qui sont comparés aux yeux de Dieu, par Dieu, à des brebis. Vous êtes des brebis. J'espère que je vous ai pas blessé en disant ça. C'est écrit dans la Bible, hein. C'est Dieu qui parle ainsi. Il est le berger. Nous sommes des brebis. Pas des boucs, hein. Des brebis. Des brebis. Nous sommes alors en sécurité, en sûreté. Pourquoi ? Parce qu'il ne change pas. La Bible nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit que en Dieu, qui est le Père des Lumières, en qui il n'existe aucune ombre de variation, et c'est de lui que descendent toute grâce excellente et tout don parfait. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il ne change pas. Tout change dans ce monde. Moi aussi, je change. Tous les matins, quand je me regarde dans ma glace, je dis « Qu'est-ce que tu as changé ?» Et la glace me dit, le miroir me dit « Je confirme. » Mais Jésus ne change pas. Ses attributs sont en permanence les mêmes. Ensuite, Jésus est vivant, et puisqu'il est vivant, cela implique la garantie d'une espérance. Nous pouvons envisager alors. Nous pouvons anticiper un avenir nouveau. Serein. Glorieux. Basé sur une véritable espérance. L'espérance de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Pas sur la terre. Hein. Il y en a qui disent ça. Mais la Bible ne dit pas. Dans le royaume de Dieu, avec Dieu. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. L'héritage de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ du royaume des cieux. La garantie d'une espérance vivante. Christ en nous, dit la Bible, Christ dans nos cœurs, l'espérance de la gloire. Et puisque Jésus est vivant, cela implique aussi le commencement d'un temps de victoire. Pourquoi pas ce matin ? La résurrection de Jésus-Christ représente tout d'abord la fin d'un temps. C'est-à-dire la fin de l'humiliation imposée par le péché. La fin de la souffrance. Alléluia ! Non seulement celle de Christ, concernant, je dirais, en quelque sorte par rapport à l'humanité, de la domination de celui qui est appelé Satan, le diable. Qui ne vient que pour égorger, détruire, faire du mal. Regardez autour de vous, la folie, le dérèglement. Mais la garantie d'une espérance dans le commencement d'un temps de victoire, le commencement de la grâce, source de salut, de la bénédiction de Dieu, qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin, et de la victoire acquise à la croix du calvaire, où Jésus a dit, entre autres, dans les fameuses sept paroles qu'il a prononcées à la croix avant d'expirer, tout est accompli. Tout est accompli. Père, je suis allé au bout. Je disais que tous les plans de destruction de l'ennemi à l'égard de Jésus, alléluia, ont échoué totalement. Je dis, je le redis avec un grand plaisir, le diable a échoué. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Vive la vie. Vive le Seigneur. Je fais que reprendre des vérités bibliques. Certes, introduites dans des merveilleux cantiques et chants. Nous pouvons mettre en évidence les stratégies, certes, de l'ennemi. À savoir, l'utilisation de plusieurs leviers, si je puis m'exprimer ainsi, d'armes pour anéantir le plan du salut et la réalité de la résurrection. Je reprends ces vérités, ces leviers, ces actes de l'adversaire qui essaye aujourd'hui plus ou moins à réitérer les mêmes actions, faisant croire qu'après tout Dieu est mort, que Jésus ça sert à rien, que la vie spirituelle chrétienne c'est une foutaise, excusez-moi l'expression, et que tout cela n'est qu'une perte de temps, c'est pour les faibles, je suis pas faible moi. Si vous m'aviez connu il y a 33 ans en arrière, j'étais pas un faible dans le monde. Certains connaissent mon témoignage. Mais celui qui était plus fort que moi a touché mon cœur et m'a fait comprendre qu'il est vivant et qu'il pouvait changer ma vie. Bref, et aujourd'hui encore, l'adversaire essaye à faire croire par certains leviers, certaines stratégies, certaines armes, que le salut, ça n'existe pas, que Jésus, c'est une invention, que Dieu, c'est une invention, que la religion, elles se ressemblent toutes, c'est des inventions. Bref, ça, c'est la folie de l'adversaire qui s'installe dans le cœur de l'homme, qui rejette Dieu. Et en rejetant Dieu et Christ, on rejette la réalité de sa résurrection et des bénédictions qui en découlent, je viens de le dire. Mais permettez-moi de souligner ces quelques leviers qui ont été utilisés à ce moment-là, quand Jésus était sur la terre des hommes, accomplissant son ministère de salut, mais qui continuent plus ou moins, j'insiste, à utiliser aujourd'hui. Le premier levier, c'est le levier politique. On se dit, ah tiens, on fait de la politique dans cette église. Non, pas du tout. Mais je reviens à ce que dit l'Écriture. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 2, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des premiers leviers que le diable va utiliser. Le levier politique. Parce que Jésus a été poursuivi dès son enfance par le monde politique d'alors. Et dans l'évangile de Matthieu, effectivement, au chapitre 2, eh bien, il est question d'Hérode, le roi Hérode. Et quand il apprend que Jésus, le Fils de Dieu, il le sait, il a des personnes qui l'entourent et qui lui rappellent certaines prophéties bibliques que vous avez dans l'Ancien Testament. Alors il va dire à ces hommes, il leur dit, écoutez, allez à Bethléem et prenez toutes les informations exactes sur le petit enfant, sur Jésus. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Quel menteur. Je me permets de le dire parce qu'il suffit de lire la suite. Vous voyez? C'est un menteur. Il veut pas adorer Jésus. Il veut tuer Jésus. Il veut arrêter l'œuvre de Jésus. Est-ce que c'est Hérode qui veut le faire? Non. C'est le diable qui utilise Hérode par rapport au fait que Hérode est encore lié par le péché. Donc, il est esclave de l'adversaire et il veut le pousser à anéantir l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre de salut par le biais de la croix, de sa mort, mais surtout de sa résurrection, car par la mort de Jésus, je suis pardonné de mes péchés si je crois en lui, et par sa résurrection, je suis justifié, alléluia, par le moyen de la foi. Hérode, qui voulait tuer Jésus. Et heureusement que le Seigneur, l'Éternel, veille, car il va dire à Joseph et à Marie, lève-toi, prends le petit enfant, prends Marie avec toi, car Marie va devenir l'épouse de Joseph. Fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode, voyez, c'est clair, verset 13, cherchera le petit enfant pour le faire périr, pour le tuer. Et Joseph va obéir, et à un moment donné, eh bien Hérode, il va mourir, hein, voilà. Et Joseph va revenir. Le levier politique. Le deuxième levier, c'est le levier de la religion. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 9, Jésus va entrer dans une synagogue. Et il y avait là, dans cette synagogue, un homme qui avait la main sèche. Alors, ils demandèrent à Jésus, les religieux, les pharisiens, alors, je le redis, la religion, dit à Jésus, demande à Jésus, pose cette question à Jésus, est-il, Jésus, permis de faire une guérison les jours de sabbat? Ils posent cette question non pas parce qu'ils ont besoin ou qu'ils reconnaissent, je dirais plutôt ça comme ça, qu'ils reconnaissent leur besoin d'une meilleure connaissance de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, mais ils posent cette question afin d'accuser Jésus, de piéger Jésus et d'anéantir Jésus. Qui c'est qui est derrière ? L'adversaire, le diable. Mais Jésus va leur répondre, il va les mettre très mal à l'aise, il va les mettre devant leur responsabilité et il va les ramener devant la réalité de ce que dit l'Écriture. Ce n'était pas la première fois que les pharisiens, les religieux de l'époque, s'opposaient à Jésus. Mais Jésus ne va pas les laisser faire, car Jésus doit mourir sur la croix pour le pardon des péchés de ceux qui croient en lui, et le troisième jour, ressuscité. Alléluia. Le troisième levier, c'est le levier de la justice. Et quand Jésus a été arrêté, le plan de Dieu se met en place, tout se réalise, toutes les prophéties se réalisent le concernant. Relisez l'Ancien Testament, c'était clair, ça devait arriver. Mais malgré tout, eh bien, le levier de la justice se manifeste de cette manière-là, c'est que les juges de l'époque ont pratiqué une justice arbitraire. Ils ont condamné Jésus à tort. Et il fallait que le plan de Dieu se fasse pour votre salut. Et mon salut. Le quatrième levier, c'est le levier de la famille et des amis. Et dans Luc chapitre 4, vous relirez, alors que Jésus va parler de lui en prenant les Écritures, bien sûr, lui, le Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, pour le salut des Juifs, pour le salut de tous les hommes sur la terre. Et dans cette synagogue de Nazareth, il va exprimer des vérités fortes. Luc chapitre 4, vous les avez, ces versets devant les yeux, certainement, vous qui avez votre Bible. Et puis nous nous rendons compte que Jésus, ce n'était pas la première fois, il va être mal compris, mal saisi, mal écouté, les cœurs sont pas ouverts. Et alors il y a une réaction de la part des habitants de Nazareth, il y a la réaction des religieux de la synagogue, il y a la réaction même des frères et des sœurs de Jésus. Et quand vous lisez le verset 28 au verset 30, vous vous rendez compte qu'ils vont vouloir même jeter, précipiter Jésus de la montagne, de la falaise. Cette montagne où se trouve la ville de Nazareth. Ils veulent le précipiter, le tuer. Et vous avez le dernier levier que le diable va essayer à utiliser et qu'il essaye à utiliser encore aujourd'hui. Tous ces leviers sont encore existants pour empêcher les hommes de croire dans la résurrection de Jésus. Donc dans son œuvre de salut à la croix, c'est le levier du cercle intime. Le cercle intime. Les amis, les proches. Et l'un d'entre eux, c'est Judas. L'un de ses disciples qui va aller jusqu'à trahir Jésus pour quelques pièces, pour de la menue monnaie. Et quand je dis cela, c'est que le prix qu'il en a retiré, c'était à l'époque le prix d'un esclave, excusez du peu, puisque c'était une réalité à l'époque. Vous alliez sur le marché des esclaves, il y avait des esclaves très chers et vous aviez des esclaves à bon marché, excusez l'expression, soldés. C'était en fonction de leur force, de leur capacité physique, intellectuelle, j'en passe. Et donc ça coûtait plus cher. Mais le prix qu'il va recevoir pour trahir Jésus, c'est le prix, et je m'en excuse, mais c'est la vérité, c'est le contexte de l'époque. Eh bien, c'est le prix d'un esclave qui valait rien. Jésus est mis au rang de ceux qui valent rien. Jésus est mis au rang de ceux qui sont les plus, eh bien, les considérés comme les plus abjects, ceux que l'on rejette. On n'en a rien à faire et malheureusement c'est encore vrai aujourd'hui. Je ne dis pas ça de vous, mais c'est une réalité, vous le savez comme moi. Il va être trahi par cet homme. Mais le plan de Dieu va quand même s'exercer. la résurrection de Jésus. C'est en définitive, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le triomphe du bien sur le mal. Sur le génie du mal. Par là même, c'est l'esprit de victoire que Jésus veut nous enseigner. Dieu renverse toujours les plans destructeurs du diable. Toujours. Il a toujours un coup d'avance, le Seigneur. Amen. Pardonnez-moi l'expression. La force alors sort de la faiblesse. Bien que Jésus se soit battu jusqu'au bout, il semblait pourtant, si on avait été là, pardonner du peu, mais quand je lis l'évangile, je ne dis pas que quelques lignes, j'écoute pas religieusement, ou je lis pas religieusement, on dit « Ah oui, alors, non, boum. » Non. Je réfléchis. Je me mets dans le contexte. Si vous aviez été là, vous auriez vu, non pas un homme couronné de gloire, je reprends les textes bibliques, mais vous auriez vu un homme que l'on méprisait, un homme qui n'avait rien pour attirer les regards, un homme qui a été rejeté, bafoué, on lui a tiré la barbe, on lui a craché dessus, on lui a donné des coups, on l'a flagellé, on lui a mis une couronne d'épines, ça l'a abîmé, ça l'a torturé, ça lui a fait mal, il a souffert. Mais Jésus savait qu'au bout de cette route, il y allait avoir une victoire qui allait mettre un coup fatal au diable et au péché. Et ce dimanche de Pâques 2018, je ne le regarde pas comme étant un moment religieux, mais je le regarde comme étant un moment de victoire, un moment de bénédiction, un moment de guérison, un moment de salut. Alléluia. Je regarde cette vérité, serait-ce pour moi-même pardonner mon égoïsme. Mais je crois que vous aussi, vous pouvez le faire et le dire pour vous-même. Je regarde cette vérité pour moi-même comme étant pour moi la possibilité encore d'aller plus loin. Certains ont cru qu'il était trop faible pour gagner. Mais voici que le troisième jour, selon les Écritures, il ressuscite. Son secret, le secret de Jésus, le Fils de Dieu, c'est sa communion avec son Père jusqu'au bout, le Père céleste, la fameuse Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il va dire au Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Christ a triomphé. » La croix, mes amis, mes frères et sœurs, ceux qui écoutent ce message sur le site, la croix n'est pas la défaite, mais la croix est synonyme, amen, de victoire. C'est notre victoire. J'ai été touché par le témoignage de la maman de ce lieutenant-colonel, Monsieur Beltram, qui a donné sa vie pour permettre à une autre de demeurer. Cette femme a dit « Je suis chrétienne ». Elle l'a dit. Les informations ont répercuté ce qu'elle a dit. Alléluia. Elle a dit « Je suis chrétienne ». Et justement, elle parlait de Pâques. Et elle dit « Pour moi, il n'y a pas d'histoire de haine, de colère, de vengeance. Il y a tout simplement une histoire qui touche mon cœur, qui a touché mon cœur, celle de l'amour de Dieu. Je suis profondément touché par des personnes qui arrivent à avoir une telle position. Pourtant, quelle douleur! Quelle douleur! Mais Jésus, ce n'est pas la défaite, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, c'est la victoire dans le cadre d'une espérance vivante pour celui qui met sa foi en lui. Nous sommes appelés par conséquent à vivre non pas avec un esprit de défaite, mais de victoire. Je vais terminer. Je passe bien des points parce que le Seigneur m'a conduit autrement. Et je terminerai avec ce que dit Paul. La résurrection de Jésus, elle est l'assurance de notre propre résurrection. Un jour, on va mourir. Pardonnez de vous le rappeler. C'est le chemin de la vie. À un moment donné, ça va s'arrêter. Vous savez, ces dernières heures, nous étions près de mon beau-père qui a fêté ses 80 ans. Ça fait 33 ans que nous prions pour mon beau-père et ma belle-mère. Tous les jours, sans relâche. Et qu'elle n'a pas été, non pas ma surprise, parce que ça ne me surprend pas, mais notre joie, je dirais, en quelque sorte. De voir qu'il est en train de se poser les bonnes questions. Pour mieux tard que jamais. Vous savez, quand on a 80 ans, on se rend compte que on n'est pas loin de quitter la Terre. On y pense un peu plus qu'un jeune de 20 ans qui pense qu'il a encore toute la vie devant lui, bien que les jeunes de 20 ans, je les interpelle aussi en leur disant « Attention, parce que votre vie peut s'arrêter demain. » Pour des tas de raisons, on est tous d'accord. Nous ne le souhaitons pas, bien sûr. Mais quand on a 80 ans, quand on a 90 ans, on sait très bien que notre vie est derrière. Qu'est-ce qui reste devant? Il y a deux possibilités. Soit je crois en Jésus et je vais partir avec lui, ressusciter et être avec lui dans le ciel pour l'éternité. Soit je continue à rester dans ma folie, dans mon péché, dans mon incrédulité, dans mon combat contre Dieu. Je vais mourir. Je vais certainement, bien sûr, sortir de ce corps parce que nous avons une âme. Mais je ne vais pas avec Dieu. Je vais dans un lieu de tourment, de souffrance pour l'éternité. Ce lieu qui a été réservé pour le diable et les anges déchus. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour les hommes. Le plan de Dieu pour les hommes, c'est pas que les hommes soient perdus. C'est que les hommes soient sauvés. En acceptant celui qui est mort, bien plus, selon les Écritures, le troisième jour, ressuscité d'entre les morts. C'est ça la volonté de Dieu. Et Paul le dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il y a d'autres versions, français courant, parole vivante, qui dit ceci, il donne la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Il donne la garantie, il est ainsi noté, il est le précurseur de ceux qui sont morts. La traduction se meurt dit, comme les premiers fruits de la moisson. Alléluia. Le corps est semé infirme, il va ressusciter plein de force. Ça c'est encourageant. Vous avez des douleurs, qui sait qu'a mal, quelque part. Dès qu'on arrive à 50 ans, la première chose que l'on dit le matin, quand on déjeune avec son épouse, t'as mal où? T'as mal où? Tous les matins, avec ma femme, on prend le petit déjeuner, me dit, t'as bien dormi? Oui, ça va. T'as réussi? Oui. T'as mal où? J'ai mal là. Alors les jeunes, quand ils nous voient, ils disent « Ils sont bizarres, ces vieux. » Ça arrivera. Et vous vous souviendrez que le pasteur a dit « T'as mal où ?» C'est comme ça. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Le corps est semé incorruptible, il ressuscite incorruptible. Je reprends 1 Corinthiens 15. Hein. C'est-à-dire inaltérable, indestructible, qu'on ne peut souiller. Ça, c'est dans le ciel. Il reflète l'image du céleste, de même que nous avons porté l'image du terrestre, eh bien, nous porterons aussi l'image du céleste. Semblable à Jésus, lors de sa résurrection. Le mot terrestre, ça signifie argileux, hein. Argile, qui vient de la poussière, vous voyez, c'est fragile. Nous aurons un corps spirituel, doté de capacités supérieures à notre corps humain. J'en parle souvent avec mon épouse. Elle me dit, mais moi je serai d'un côté du ciel et toi de l'autre, mais avec les capacités que j'aurai, ma femme. Je te rejoindrai en quelques minutes. Que dis-je ? En quelques secondes, elle me dit, non, non, on va se courir l'un derrière l'autre. Peut-être pour ça que le Seigneur tarde à me reprendre, parce qu'il se dit, aïe, aïe, aïe. On n'en a pas fini. Mais non, ça sera différent. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel, c'est ça. Le naturel signifie animal, charnel, sensuel, sujet aux appétits, aux passions de la terre. C'est un corps qui est rempli, gouverné par l'Esprit de Dieu. Quand il est spirituel, il est en opposition au corps charnel et naturel. Ce corps ne peut être que spirituel puisque rien de charnel ne peut entrer dans le ciel. Il y en a qui disent, j'aimerais rentrer avec ce corps, c'est pas possible. Et moi, je veux pas. C'est un corps immortel. Il ne faut pas que ce corps mortel, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est un corps impérissable, éternel, sans perte de vie, que nous aurons comme celui de Jésus, quand il est ressuscité le troisième jour. Ce sera un corps glorieux, je termine. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Philippiens 3:21, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Christ est donc réellement ressuscité. Et les bénédictions qui en découlent sont au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Qu'allez-vous faire de la main tendue de Jésus aujourd'hui dans ce dimanche de Pâques ? À vous de choisir. Moi, mon choix a été fait il y a 33 ans et je ne le regrette pas. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Je veux te rendre grâce et te bénir, Dieu Tout-Puissant. Nous trouverons près de toi tout ce dont notre cœur a besoin. Et encore ce matin, je suis convaincu que par ta parole et aussi par ceux qui l'écouteront, ce message sur notre site puisse-t-il être touché par le Saint-Esprit, par cette vérité qui concerne ta résurrection, bien sûr ta mort à la croix, pour le pardon de nos péchés, où ton sang précieux a coulé pour nous laver, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Mais ta résurrection est un sujet de joie immense. Et en ce dimanche de Pâques, en ce week-end de Pâques, c'est encore une joie de proclamer et de retenir et de croire dans cette vérité. À Dieu soit la gloire. Amen.